Espace public sur Couleur FM, l'émission qui donne des couleurs à la politique. Retrouvez chaque semaine les candidats aux élections municipales 2014.
Espace public, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous sur l'antenne de Couleur FM. Votre radio locale dans le Nord-Isère se met à l'heure électorale, à l'heure municipale. Alors voilà, c'est un nouveau rendez-vous, 30 minutes chrono en main pour vous présenter chaque candidat aux élections municipales à Bourgoin-Jallieu, à l'île d'Abeau, à la Verpillière et à Villefontaine pour que vous connaissiez mieux les candidats pour lesquels vous allez peut-être voter au mois de mars. Alors pourquoi cette émission spéciale sur Couleur FM? Tout simplement parce que ça nous paraît naturel, tout simplement parce que Couleur FM, radio de proximité, est une radio citoyenne, elle est un média au service de son territoire, au service des citoyens du Nord-Isère, et en cela, elle est concernée, comme vous le savez, par la vie locale dans toutes ses dimensions. Et cette vie locale, ce sont bien nos institutions municipales et communautaires qui sont là pour la gérer politiquement. Une demi-heure, c'est court et c'est long à la fois. C'est du temps donné à la vie de la cité, à la politique, au sens noble du terme. Loin de toute polémique politicienne stérile, cette demi-heure s'attachera au fond des idées, sans parti pris partisan. La politique sociale, la politique économique, culturelle, les transports, la sécurité, rien ne nous échappe. Rien ne vous échappera et au soir des élections, à l'heure de choisir, vous pourrez à loisir retrouver nos podcasts sur les sites internet pour glisser dans l'urne le bulletin qui vous paraîtra le plus pertinent. Pour présenter cette émission avec moi, Thierry Borde, Véronique Boulieu, directrice d'antenne de Couleur FM, qui va prendre la parole maintenant pour nous rappeler les règles et nous présenter notre invité du jour.
Alors c'est tout simple, hein. Pendant une demi-heure, nous parlerons avec notre candidat qui nous présentera son programme, qui nous présentera ses idées et puis on aura quelques petites choses particulières. On va lui demander le titre d'un livre qu'il a aimé, une musique qu'il a aimée. On va essayer de faire le tour du candidat, mais peut-être d'une manière différente. Alors aujourd'hui, on reçoit Armand Bonamy pour la liste Ensemble réinventons Bourgoin-Jallieu. Alors Armand Bonamy, vous êtes bien connu sur le territoire. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous faire une petite carte d'identité de qui vous êtes?
Oui, bonjour, Armand Bonamy. Donc j'ai été pendant 37 ans et demi professeur d'histoire-géographie. Je suis à la retraite actuellement. 70 ans, marié, 4 enfants. Je suis venu à Bourgoin-Jallieu pour 6 mois il y a 35 ans et j'y suis toujours. C'était une histoire d'amour avec ma femme et en définitive, je crois que cette ville m'a adopté, mais que je l'ai surtout adopté pour moi. Je suis élu à Bourgoin-Jallieu depuis 1983. Je suis vice-président de la CAPI. Et j'ai été nommé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs chevalier dans l'ordre du mérite pour tout un tas d'actions que j'ai eues dans l'éducation nationale et au niveau des adolescents. Pendant 40 camps d'ados, je me suis occupé de gosses extrêmement difficiles comme des enfants d'Aubervilliers et des enfants de Marseille. À Bourgoin-Jallieu, j'ai mené mon petit bonhomme de chemin, étant tout d'abord délégué au socio-éducatif, et puis ensuite adjoint, chargé de la communication, des technologies nouvelles, et puis des transports et de l'environnement dans ce dernier mandat.
Votre engagement politique?
Je suis resté longtemps sans engagement politique, puis j'ai adhéré au Parti Socialiste, que j'ai quitté il y a 4 ans. Désolé de voir ce qui se passait sur le plan national. Le jeu permanent des ambitions, l'oubli des promesses électorales, et je reste un homme de gauche, puisque je mène une liste qui est une liste qui n'est pas politique, mais qui est une liste dans laquelle j'ai réuni des partisans aussi nombreux de droite que de gauche, finalement, et on s'entend. Et là, je savais un peu y faire, parce que je travaille, alors que j'étais secrétaire de la section socialiste, je travaillais déjà avec le député de droite, Georges Colombier, sur un contrat global de développement dans le secteur, qui est un contrat de la région qui permet aux élus de regarder un peu leur territoire, d'en voir les faiblesses et d'essayer de les combler. Et donc, en deux sessions de 6 ans, pratiquement, on a réussi à faire tomber quelques millions d'euros sur le territoire, sur des projets bien réels qui ont transformé un peu la vie. Je donne un exemple. J'ai créé avec Marie-Jo Dagnac le Festival des Barbares.
Alors, et justement, dans ce parcours politique, vous êtes à un tournant. Vous étiez élu de la liste majoritaire et vous êtes aujourd'hui candidat dissident.
Non. Je refuse à la fois le terme d'apolitique, le thème de dissident. Pour être dissident, il faut avoir changé d'option par rapport au projet municipal dans lequel j'étais ancré. Et moi, je considère que c'est pas moi qui ai changé d'option, c'est la majorité sortante, telle qu'elle a été pilotée par le maire actuel, qui n'accepte ni la contradiction, ni la discussion. Pas eu moyen de discuter avec lui, et donc par conséquent, quand on s'est opposé à lui en lui disant « il faut que tu dialogues », il nous a mis dehors.
D'accord, donc pour vous, votre candidature, c'est rester dans la continuité de l'engagement politique d'avant ?
Pas politique. Je crois que de toute façon, quand vous êtes dans un parti politique, vous avez des schémas politiques, vous êtes dans la pensée politique unique de votre parti. Moi, j'ai construit une liste qui est composée de citoyens et citoyennes qui aiment leur ville, qui sont compétents, qui vivent dans les quartiers, qui vivent dans la société, qui sont parfois présidents d'associations. Moi-même, j'en suis un. Et qui font fi de leurs opinions politiques parce que le projet qui a été construit en commun est un projet qui peut convenir à cette ville parce que nous représentons tout l'éventail politique précisément de la ville, sauf les extrêmes.
Alors, pour aller un petit peu plus dans le fond des choses maintenant, la politique municipale devient peut-être plus complexe qu'auparavant. Nous avons aujourd'hui des intercommunalités qui viennent entrer dans le jeu. Ici, Bourgoin-Jallieu fait partie de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, la CAPI. Et puis, on a aussi la future métropole lyonnaise qui arrive à grands pas. Quelle place aujourd'hui pour la commune dans tout ça ?
Sur la place de la commune, je m'exprimerai après avoir quelques préalables. Moi, j'ai connu, vous parlez de la complexité actuelle. Moi, j'ai connu la période 83, quand j'ai été élu pour la première fois. Les choses étaient relativement simples, très franchement. Depuis, on a eu un fouillis de textes de loi qui font que désormais, pour pouvoir délibérer en conseil municipal, on a l'aide d'un juriste. J'ai été 18 ans conseiller régional aussi, en y occupant pratiquement tout le temps des postes de responsabilité. Président de la commission des lycées, ça m'a permis de faire entrer en rénovation le lycée Jean Loiselet, le lycée Jean Codobry. J'ai fait installer ici le CFA du bâtiment, le comité régional olympique et sportif. Et il me semble qu'au niveau de l'aménagement du territoire, la région, c'est une bonne position. Elle est capable de faire beaucoup de choses. On le voit bien d'ailleurs, puisque son budget actuellement pour gérer 8 départements, c'est une fois et demie le budget du département de l'Isère. Et avec ça, je pense qu'elle fait des prodiges. Donc je pense que ce niveau-là est un bon niveau. La CAPI maintenant, il se trouve que moi j'ai œuvré à sa mise en place. Au départ, il y avait la volonté de l'État de sortir, la ville nouvelle. Et donc... quand on a commencé à parler de la CAPI, ni Bourgoin-Jallieu ni la Ville Nouvelle ne se parlaient. Ça a été un peu compliqué. Mais par contre, on avait mis en place un contrat, je l'ai expliqué tout à l'heure, un contrat global de développement avec Georges Colombier. Ça a permis à des élus de se rencontrer et ça a permis à des élus à mieux se comprendre. Et en définitive, l'État a joué son rôle de mise en relation. Et on a essayé de voir dans quelles conditions les choses pouvaient se faire. Ça a pris du temps. Ça a pris bien 7 ou 8 ans de réflexion. Parce que on était un cas unique dans notre secteur. On était un cas unique. Il n'y avait pas une situation qui soit identique en France. C'est-à-dire que toutes les villes nouvelles qui avaient été créées avaient atteint la taille de 50 000 habitants au moins qui leur permettait de devenir une communauté d'agglomération. Et ici, la ville nouvelle n'avait pas cette taille-là. Elle avait besoin d'éléments rapportés, donc de la ville-centre qui est Bourgoin-Jallieu et d'autres villes, bien sûr, pour pouvoir atteindre cette taille. Et on est actuellement à 100 000 habitants à peu près dans la CAPI. Et par conséquent, de toute façon, il a fallu terminer cette ville nouvelle. Ce n'est d'ailleurs pas terminé. L'État est encore propriétaire d'un gros pack de terrain sur notre territoire dont il veut se débarrasser parce qu'il veut rentrer aussi dans son argent puisqu'il a investi dans la ville nouvelle. À mon avis, qu'il n'a pas fait très bien, puisqu'il a surtout mis le paquet sur les logements sociaux. À Villefontaine, vous avez quand même 70% de logements sociaux. On ne fait pas vivre une ville avec ça. Et à l'île d'Abo, c'est à peu près pareil. Donc, la CAPI, j'y ai travaillé avec d'autres, avec acharnement, en y croyant. Et j'ai encore des textes de mes interventions que je faisais quand j'étais candidat au conseil régional, dans lequel je dis il faut qu'on s'unisse. Sinon, on avait d'ailleurs à l'époque le sentiment que le département nous ignorait, que la ville de Lyon, la communauté lyonnaise était une espèce de menace diffuse. On ne savait pas trop pourquoi, mais c'était comme ça. Et on était quelques-uns à dire « il faut y aller ». Donc on s'y est mis. Et finalement, la CAPI, elle a 7 ans maintenant. Les deux premières années, ça a été un peu compliqué, il fallait tout inventer. Ce mandat qui vient de s'écouler, eh bien, c'est un mandat qui a permis de mettre en route le bateau. Et maintenant, le prochain mandat, il va naviguer facilement.
Et la future métropole lyonnaise ?
Alors, nous sommes dans la métropolisation. Nous sommes dans la métropolisation, ça a été voulu, d'ailleurs, en parenthèse, par les quatre acteurs principaux de cette métropolisation. Il est évident que Lyon, à petite taille par rapport à des métropoles qui sont des grandes métropoles comme Barcelone. Alors, Barcelone, c'est d'une taille gigantesque, aménagé pour que on puisse, sur le plan européen, y jouer un rôle important. Lyon n'a pas cette stature-là. La métropolisation, c'est indispensable. D'ailleurs, nous sommes dans l'orbite lyonnaise. Alors, il y a Saint-Étienne qui fait partie de cette métropolisation. Il y a le secteur de Vienne et il y a le Nord-Isère. Nous sommes quatre là. Et on n'y engrange pas que des difficultés. On y engrange parfois des quelques bénéfices. Et moi, je pense qu'un certain nombre d'actions qui sont menées actuellement sur le territoire n'auraient pas pu se mener si on n'avait pas eu la bénédiction de notre grande sœur lyonnaise.
Alors,
pas de danger donc de ce côté-là.
Pour en revenir plus directement à Bourgoin-Jallieu, l'économie à Bourgoin-Jallieu, elle est comme ailleurs et elle va comme elle va. Quelle politique économique vous aimeriez mener si vous êtes élu premier magistrat de Bourgoin-Jallieu et peut-être quelle place pour l'économie purement locale, pour l'économie qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, pour l'économie de proximité, pour les producteurs locaux, pour les artisans, les commerçants locaux.
Bon, moi je suis imprégné de l'ambiance actuelle. Par rapport à ça, j'ai été, pas par hasard, responsable du développement durable et de l'environnement. Vous savez, moi j'ai été socialiste, je l'ai dit, mais j'étais rocardien à l'époque. Pourquoi j'étais rocardien ? Parce que tout simplement, Michel Rocard et Jacques Delors, et accessoirement, étaient les seuls dans ce parti à parler d'économie. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que si les entreprises se portent mal, on le voit bien actuellement, il n'y a pas moyen de distribuer quoi que ce soit. Et par conséquent, je pense que la force des entreprises dans une communauté d'agglomération, par exemple, ou même sur notre territoire, est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'on doit créer les conditions pour que les entreprises puissent se développer dans des conditions qui sont des conditions exemplaires et innovantes. Et donc, nous y veillerons quand nous serons élus. Sur le plan de l'économie sociale et solidaire, elle a été longtemps délaissée, de côté, étant marginale, etc. On s'aperçoit qu'elle crée des emplois, qu'elle crée également des conditions de travail qui sont, d'une manière générale, adéquates. Et moi, je suis un fanatique, entre guillemets, des secteurs courts pour des défenses de l'environnement, etc. Il faut se méfier quand même, parce que j'ai appris l'autre jour que quand on importe par avion des haricots du Kenya, parfois l'empreinte écologique est moins importante que d'aller les chercher à Brest ou à Strasbourg. Il faut se méfier. Mais quand on est conscient du fait que l'environnement, c'est l'avenir, que nos enfants doivent vivre dans des conditions qui sont acceptables et qui leur permettent d'ailleurs de vivre heureux. C'est un terme qu'on emploie rarement en politique, mais vivre heureux, c'est quand même, c'est une certaine importance. Le bonheur, c'est personnel, mais il n'empêche qu'il faut qu'il y ait une empreinte autour de la personne qui lui permette d'accéder à ce bonheur-là. Moi, je suis quelqu'un qui pense que nous devons tout faire pour vivre mieux et vivre bien dans notre secteur.
Très bien, alors on va faire une petite pause, on en arrive à la moitié de cette émission. On vous a demandé un exercice un peu particulier, on vous a dit, mais venez avec l'idée d'un titre musical qui pourrait vous présenter d'une certaine manière. Qu'avez-vous choisi ?
Moi, j'ai choisi l'Adagio d'Albinoni.
Pourquoi ce choix ?
Eh bien, la réalité, c'est que je suis un enfant du rock, moi. Ma génération à moi a inventé le rock. J'ai l'âge de Johnny Hallyday, pour vous donner une référence. Et donc, mon premier électrophone, c'était un électrophone de la guilde du disque, m'avait prêté une amie. Et sur cet électrophone, ben, j'écoutais Les Chats Sauvages, Les Chaussettes Noires, parfois déjà Jacques Brel, parfois Brassens, parfois Ferrat, mais quand même, c'était l'empreinte générale, c'était quand même le rock. Et mon père me disait, oui, Johnny Hallyday, tu verras, il chante comme une passoire et quand il aura 30 ans, il ne pourra plus chanter tellement il braille. Mais c'était une réaction contre ce qui se passait auparavant et l'espèce de guimauve qu'il y avait parfois, mais qui était intéressante aussi, quand on vieillit, on s'en aperçoit, diffusée par les radios de l'époque. Moi, j'ai choisi, alors jusqu'à l'âge de 18 ans pratiquement, je suis un fils d'ouvrier pauvre. Il n'y avait pas de musique classique à la maison, je peux vous le dire. Et c'est à partir de l'âge de 18 ans, quand je suis rentré à l'école normale d'instituteurs, que finalement, je me suis intéressé, j'ai écouté de la musique et que lors des cours de musique, avec ébahissement, j'ai écouté, dans les années 60, l'Adagio d'Albinoni. Alors je sais que, en plus, cet adagio, il n'a pas été écrit par Albinoni, puisque en fait, il a été écrit par un auteur italien qui s'appelle Reno Giasotto en 1945. Et Albinoni, c'est 1671-1757. Donc, vous vous rendez compte que de toute façon, il y a un décalage. En fait, ça a été écrit par cet auteur italien à partir de restes de papier de musique qu'avait laissé Albinoni. Et je trouve qu'on y trouve dans cet adagio ce que doit être un homme à sa maturité, c'est-à-dire le calme, le plaisir de l'écoute, la joie de vivre encore et le bonheur d'être dans une société qui peut s'améliorer.
Eh bien, on vous offre 2 minutes de ce bonheur.
Merci.
Vous êtes sur Couleur FM dans l'émission Espace Public, l'émission qui donne des couleurs à la politique. Alors nous sommes en compagnie d'Armand Bonamy qui se présente pour la liste Ensemble réinventons Bourgoin-Jallieu et nous a proposé comme pause musicale Albinoni. Alors on va continuer ce débat avec Armand Bonamy, Thierry.
Oui, alors retour donc sur la politique après Albinoni. J'aimerais qu'on aborde très rapidement la question sociale. On a vu tout à l'heure l'importance de l'économie. Le Bourgoin-Jallieu effectivement a aussi ses problématiques au niveau de l'emploi. Vous avez parlé du logement, mais concernant les autres communes environnantes. Vous avez dit que le logement social prenait peut-être une trop grande place. Alors j'aimerais savoir finalement quelle est votre ambition pour le logement à Bourgoin-Jallieu et peut-être vos préconisations au niveau des quartiers populaires qui serait peut-être bon effectivement aussi de travailler sur le désenclavement.
Alors sur, je crois qu'il ne faut pas se méprendre, on essaye de nous coller sur le dos et ça c'est bien con pour ma propre personne qui a passé son temps à vivre dans un quartier populaire. Je suis le seul élu pratiquement qui habite à Champfleury. Et Champfleury, c'est 6500 habitants et qui vivent parfois dans des conditions difficiles parce que pas d'emploi, parce que problème de déplacement, etc. Le logement social à Bourgoin-Jallieu, il y a 170 logements sociaux qui sont inoccupés. Il faudrait quand même un peu s'en préoccuper. Pourquoi sont-ils inoccupés ? Parce que de toute façon, ils ont vieilli, parce qu'ils sont vétustes, mais surtout parce qu'ils ne correspondent plus à la structure de la société actuelle. Vous avez des femmes qui vivent seules avec leurs enfants, vous avez des jeunes qui veulent se délocaliser par rapport à leurs parents, Et avant de dire il faut absolument qu'on soit des logements sociaux, on est déjà à 28% ou 30% à peu près à Bourgogne-Jallieu. Donc on a fait notre boulot. Moi, j'ai, je suis élu depuis 83. Vous ne m'avez jamais entendu nulle part. Personne ne peut dire, bon ami, il est contre le logement social. Mais je pense que de toute façon, il faut d'abord se préoccuper de du devenir de ces logements sociaux et de faire en sorte de les adapter. Quand on a voulu, par exemple, adapter pour un logement pour personnes âgées un bas d'immeuble social dans lequel moi j'ai vécu d'ailleurs quand je suis arrivé ici, j'ai habité 5 ans en immeuble social, on a pu le faire. Donc je pense qu'il faut le faire, ça serait un moindre coût et d'autre part ça permettrait effectivement de faire en sorte qu'on n'ait pas des dents creuses dans les logements sociaux, ce qui est toujours préjudiciable.
Est-ce que...
C'est pour ça qu'on a voté contre le PLU aux élections, au dernier conseil municipal, pour plusieurs raisons. C'est parce que de toute façon, à un moment donné, on a essayé de nous faire dire que dans ce quartier, tout le pâté de maison qui est ici nous appartient un jour ou l'autre. Il y aura ici des immeubles, il y aura des magasins, il y a un projet qui s'appelle Urba Gare. Il se fera pas demain, mais en tout cas, il se fera dans les 30 ans qui viennent. C'est la mode actuellement. Peut-être que ce sera moins la mode, mais en tout cas, de toute façon, Bourgogne-Jallieu est attractive, donc va s'étendre. Et ici, il y aura donc un nouveau quartier. Et ce qui était prévu dans le PLU, c'était 50% de logement social. C'est pas vivable. Et on a hurlé en conseil municipal et on a réussi à obtenir que ce ne soit pas chiffre, mais qu'on descende plutôt vers 27% de logement social. Ce logement social, moi, il m'apparaît indispensable. Il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à d'autres logements, il m'apparaît indispensable. Il faut qu'il y ait un bel équilibre. J'aimerais bien qu'on se penche un peu tous sur la mixité sociale. Moi, j'ai connu à Grenoble l'expérience de la Villeneuve. Franchement, on voit ce que ça donne actuellement.
Ça fait débat aussi à Grenoble en particulier. Mmh. Alors peut-être passons à un autre point. Vous êtes beaucoup préoccupé en tant qu'élu de l'environnement. Vous avez été à l'initiative notamment de l'incinérateur. Aujourd'hui,
pas de l'incinérateur, du chauffage des quartiers et de la ville à partir de l'incinérateur.
Pardon. Et aujourd'hui, effectivement, on entend parler de pollution de plus en plus.
Alors, si vous voulez, c'est pas inintéressant de parler justement du chauffage de la ville par l'incinérateur de Bourgogne-Jallieu. D'ailleurs, il suffira pas lui tout seul. Il faudrait rajouter une chaufferie au gaz ou à d'autres moyens. Pour l'instant, on en est là. Ça va se faire. De toute façon, ça va se faire puisque l'opérateur est choisi. Et donc, le simple fait de chauffer les quartiers avec l'incinérateur, avec la vapeur de l'incinérateur, l'eau chaude de l'incinérateur, ça va économiser par an 7000 tonnes de CO2. C'est pas rien. Pourquoi ? Parce qu'on va fermer toutes les autres chaufferies qui sont vétustes ou qui balancent du CO2 dans l'atmosphère. Or, la station d'incinération, c'est la première source de pollution en CO2 de la ville. Derrière vient l'autoroute et les déplacements en voiture. Si on réduit la vitesse entre Saint-Quentin-Fallavier et Coiran sur l'autoroute de 130 à 110, on augmente de quelques minutes seulement le temps de la distance, mais on économise des dizaines de milliers de tonnes de CO2. Ça, il faut le faire, parce que les particules actuellement sont des dangers pour la santé de nos concitoyens.
Véronique, peut-être sur le champ culturel maintenant.
Alors, concernant la culture, nous avons eu malheureusement le sinistre du théâtre Jean Villard. Depuis, pas de reconstruction. On sait que c'est un gros problème pour les habitants de Bourgogne-Jallieu. Alors, qu'en est-il du théâtre ?
Alors, ce théâtre-là, d'ailleurs, déjà, en une minute, je vous le dis, avec Michel Boucris, qui était à l'époque adjoint à la culture, on s'est bagarré pour qu'il existe parce que, à l'époque, toutes les industries de Bourgogne-Jallieu s'effondraient, traditionnelles, et on n'avait pas beaucoup d'argent à y mettre. Et on a fait cette espèce de théâtre de poche qui s'appelait Jean Villard. D'accord ? Alors, moi, quand il a brûlé, il se trouve que, malheureusement, j'étais sur la place Carnot, dans une poussière et dans une fumée épouvantable, et que moi j'en ai pleuré de voir brûler ce théâtre. Alors moi je pense que de toute façon une ville centre ne peut pas vivre sans théâtre, ne peut pas vivre sans son tribunal de grande instance, ne peut pas vivre sans son conservatoire de musique et même pas sans ses abattoirs, bien sûr. Donc je pense que de toute façon il faut vraiment s'attacher à reconstruire quelque chose, mais ça ne pourra pas être le théâtre Jean Villard tel qu'il était, ça sera une salle multimodale qui permettra d'exercer plusieurs activités culturelles. Sur la culture, il faut la décentraliser sur les quartiers. Il y a des gens qui pensent que c'est que la culture, c'est pour les autres. Moi, quand on a voulu mettre en place le festival des barbares, c'est le festival des bars en bar, on a choisi les bars parce que justement c'était un lieu de perdition, entre guillemets, et qu'il y avait une clientèle là qui n'était pas destinée à aller au théâtre. Et ça a marché dès le début, ça a marché du tonnerre de Dieu. Et oui, la culture pour tous, parce que de toute façon, là, je suis prof d'histoire, mais pas seulement parce que je suis prof d'histoire, c'est parce que je me sens sur une ligne d'histoire, sur une ligne historique. Et je me dis que dès que l'homme a été en capacité à se libérer d'un certain nombre de besoins naturels essentiels, eh bien, il a commencé à vouloir laisser des traces de sculpture, des traces de peinture, et les grottes de nos ancêtres sont là pour nous prouver. La culture, c'est la base de l'humanité.
Alors, la culture dans les quartiers, ça veut dire aussi un soutien peut-être accru aux associations qui amènent la culture dans les quartiers.
Tout à fait. De toute façon, on ira vers des contrats d'objectifs à tous les niveaux avec les associations et on fera vraiment des projets avec eux. Et on les fera avec eux parce qu'il y a une chose pour l'instant que je n'ai pas abordée, mais je vais dire en une seconde, c'est que nous sommes, nous, persuadés que rien ne peut se faire sans l'avis des habitants. Les habitants de la ville, ce sont les experts de leur vie et de la vie de leur ville et de leur quartier. Et on n'a fait que ça jusqu'à présent en termes de campagne. On est allé voir les gens pour pouvoir construire notre projet, pas par démagogie. Il y a des moments où on dit non, on ne peut pas le faire, mais parce que de toute façon, il est normal qu'on consulte les citoyens de cette ville autrement que tous les 6 ans.
Les associations, effectivement, c'est un tissu très important sur Bourgoin-Jallieu, donc les soutenir, c'est les soutenir.
Il y a 350 associations. C'est une richesse incroyable, hein. Il y a des associations sportives. Moi, je pilote 2 associations du devoir de mémoire. À une époque, j'ai piloté également, j'étais président d'un judo club, etc. Je crois que les associations, je le dis toujours, tout le temps quand je les rencontre, c'est que 35 conseillers municipaux voulant animer une ville, ça serait un peu artificiel parce qu'il faudrait vraiment faire appel à des extérieurs. Et en réalité, de toute façon, les animateurs de la culture, du sport, etc., de la ville, ce sont les associations. Nous, notre boulot, notre travail, c'est de les aider. Les aider comment ? Avec, par exemple, des emplois en temps partagé, parce que quand vous avez une grosse association, en définitive, vous arrivez donc à être une association qui a besoin de secrétariat. Et d'autre part, quand vous regardez les papiers que vous êtes obligé de remplir pour avoir des subventions, très franchement, il faut devenir un technicien de 5e niveau.
On en a l'habitude dans une radio associative comme la nôtre.
Oui, je crois que vous devez savoir ce que c'est.
On aimerait peut-être vous laisser terminer cette émission, parce que de la même manière qu'on vous a demandé un choix musical, on va vous demander finalement un choix littéraire, nous donner un livre qui vous a marqué particulièrement et en quoi il éclaire peut-être vos choix politiques d'aujourd'hui.
Moi, je suis un fils d'ouvrier pauvre, mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui aimait lire, et un père et une mère qui aimaient lire, tous les deux. Et quand j'étais gamin, il m'a un jour donné un livre qui s'appelait « Le règne du gorille ». L'ancêtre du bouquin de Pierre Boulle, par exemple, La planète des singes. Je suis un passionné de science-fiction et j'ai lu Le monde d'Ea de Van Vogt, j'ai lu Fondation d'Isaac Asimov, j'ai lu bien d'autres choses d'ailleurs. Mais il y a un livre, alors, parce que de toute façon, à l'époque, quand j'avais 15 ans, il était évident que on lançait des satellites pour la première fois dans l'espace et qu'on croyait à la science bien plus qu'on y croit aujourd'hui. Mais il y a un livre qui m'a marqué, c'est L'épervier de Maheu. C'est L'épervier de Maheu qui a été écrit en 1972 par Jean Carrière, qui a eu le prix Goncourt, je crois déjà, et qui raconte l'histoire d'un village des Cévennes qui se meurt. Et il s'appelle d'ailleurs, en parenthèse, Mazel de Mort, le bien nommé. Hein. Et on y voit la vie rude de nos paysans dans les années de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Combien, de toute façon, ils supportaient avec résignation leur sort, sachant qu'ils allaient mourir et laisser aucune trace dans la société que celle des quelques progrès qu'ils avaient accomplis au cours des siècles. Et je trouve ce livre est écrit de manière merveilleuse, dans un style dépouillé, et c'est également un livre qui est plein d'enseignements. Restons modestes, mais en tout cas, sachons que nous traçons l'histoire.
Eh bien, je vous remercie. Ça sera le mot de la fin. Donc, c'est Armand Bonamy pour la liste Ensemble réinventons Bourgoin-Jallieu. Un site internet, un endroit où on peut éventuellement vous retrouver, votre programme, etc.
Nous avons un blog. Nous avons un blog. Il suffit de sur Google ou d'autres moteurs de recherche, vous mettez Armand Bonamy.
Avec deux N, je précise.
Et deux N. Et donc, vous tombez sur moi.
Merci beaucoup.
Merci.